Bonjour, bienvenue à vous. Merci d'être aussi matinal en ce vendredi. Bonjour Victor Dixen, donc, que vous connaissez tous, prix des Imaginales collégiens cette année pour Phobos. Vous êtes quasi un habitué des Imaginales. Moi, la dernière fois que je vous ai vu, vous m'aviez dit que vous habitiez Singapour. Alors, il semblerait que ça ne soit plus d'actualité.
Oui, j'ai déménagé il y a 4 jours à New York, donc c'est tout récent. Et à peine arrivé à New York, je suis reparti pour la France et les Imaginales, qui est un rendez-vous dans le calendrier que je raterai pour rien au monde. Donc je ne sais pas trop sur quel fuseau horaire je suis actuellement. C'est peut-être pour ça que j'ai réussi à me lever ce matin pour venir à cette table ronde. Mais effectivement, voilà, je suis récemment New-Yorkais.
Alors, avant Singapour, avant New York, vous êtes né où ?
Je suis né en France, ouais. D'un père danois et d'une mère française. Donc j'ai cette culture à la fois scandinave et française. J'ai beaucoup voyagé dans ma jeunesse avec mes parents, en Europe principalement. Et c'est peut-être ça qui m'a donné le goût ensuite des voyages. J'ai eu la chance de pouvoir vivre dans différents pays. J'ai vécu dans le Colorado aux États-Unis quand j'étais plus jeune. Donc là, j'y retourne cette fois-ci sur la côte Est. Également en Irlande quelques années, une autre expérience qui m'a beaucoup plu.
C'est un atout quand on est écrivain d'avoir beaucoup voyagé ?
En tout cas, ça vient alimenter l'inspiration. Je pense que toute écriture se nourrit d'expériences. Et le voyage, bien sûr, ce sont des expériences, ce sont des rencontres, ce sont des chocs culturels. Donc ça nourrit. Moi, je pense que c'est un atout en ce qui me concerne. Hein. J'y puise beaucoup de choses, oui.
Et alors, on va continuer un peu quand vous étiez petit, quand vous étiez enfant. Quel genre d'élève vous étiez ? Est-ce que vous étiez studieux ? Est-ce que vous aviez de bonnes notes ?
Je crois que j'étais plutôt studieux, effectivement. J'étais tout le temps dans mes livres. J'avais cette boulimie d'histoire que j'ai encore. Donc il y a des choses qui ne changent pas. Et je n'étais jamais rassasié de lecture. Donc je lisais tout ce qui me passait sous la main. Je passais des journées entières en bibliothèque. Je me souviens que ce soit des bandes dessinées, des romans, des documentaires. Donc c'était vraiment mon truc, c'était les livres.
Des contes, vous lisiez ? Parce que dans tout ce que vous avez écrit, il y a notamment des réécritures de contes. Vous aimiez ça quand vous étiez petit ?
J'adorais ça, et même avant que je sache lire, donc quand on me les racontait, j'avais déjà cette boulimie d'histoire en moi qui précède la lecture. Et je demandais à chaque fois à mes parents, à mes proches, de me raconter des contes et de me les raconter encore et encore jusqu'à ce que je les connaisse par cœur comme des chansons. Et je sais pas ce que... Oui, j'ai trouvé quelque chose vraiment qui me fascinait et j'ai gardé ce goût pour les contes en étant adulte et notamment à travers mon travail d'écrivain parce que je trouve que ce sont des histoires fascinantes qui semblent très simples en surface mais qui ont un abîme de sens. On peut toujours creuser dans un conte, on est sûr d'en ramener des choses, d'en ramener des perles. C'est insondable, en fait, un conte. Et c'est ça que j'adore. Cet aspect effectivement très riche, et également leur plasticité, c'est-à-dire le fait qu'on peut les re-raconter, les réinventer, et on retombe toujours sur nos pieds. On peut les déformer, on peut leur donner un autre aspect, on peut les mettre dans une autre époque, et il y a quand même des motifs qui reviennent. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de faire, notamment dans mes premières séries, le cas de Jack Sparks, qui tourne autour des contes de Charles Perrault en particulier. Puis ensuite, dans ma série Animal, chacun des tomes s'articulant sur un conte en particulier, le premier sur celui de Boucle d'or et les trois ours, et le deuxième sur le conte de la Reine des Neiges. Et en travaillant autour des contes, comme ça, j'ai appris à mieux les connaître, et notamment à connaître leurs différentes catégories, les différentes familles de contes. Et à ce titre, Animal est intéressant parce que ça illustre bien les deux grandes familles de contes, les contes qu'on appelle folkloriques et les contes dits littéraires. Les contes folkloriques, ce sont des contes de tradition orale que les gens se racontaient à la veillée, autour du feu, avec des motifs assez simples, mnémotechniques, pour se rappeler du conte. Et très souvent, on a ces énumérations. Et notamment dans le conte de Boucle d'or, hein, si vous vous en souvenez, c'est cette petite fille qui se perd dans la forêt. Elle trouve une chaumière abandonnée, elle est affamée, elle est très fatiguée. Elle rentre dans la chaumière, elle voit trois chaises, elle s'assied sur une des trois chaises. Sur la table abandonnée se trouvent trois bols. Elle va boire dans l'un des trois bols, et puis épuisée, elle s'endormira dans l'un des trois lits. Et ce motif du 3 qui revient, en fait, c'était un moyen pour les conteurs de se rappeler du conte lorsqu'ils le racontaient. Et il y a cette notion de comptine aussi. Comptine, c'est compter. 1, 2, 3. C'est Marie-Charlotte Delmas, en fait, qui est une grande habituée des Imaginales, qui n'est pas là malheureusement cette année, qui m'a appris ça, et je trouve que c'est très vrai pour le conte de Boucle d'or, qui ensuite a été couché par le papier au XIXe siècle par un écrivain anglais qui s'appelait Robert Southey, mais à l'origine c'était vraiment un conte oral. Comme l'étaient les contes de Perrault, les contes des frères Grimm, c'était des contes que les gens se racontaient, et eux, ils sont allés dans les chaumières, ils sont allés recueillir les contes pour en faire des recueils qu'on connaît aujourd'hui. À l'opposé, on a un auteur comme Hans Christian Andersen, qui a écrit La Reine des Neiges, qui a écrit La Petite Sirène et tant d'autres, et lui, il a écrit à partir de rien. Il a vraiment fait un travail d'auteur, et c'est pour ça qu'on appelle ces contes-là des contes littéraires. Ceci dit, quand on creuse, même dans les contes littéraires, comme ceux d'Andersen, on retrouve des influences mythiques, mythologiques, dont il lui-même n'avait pas forcément conscience, et que j'ai essayé un peu d'exhumer, de faire ressortir dans le deuxième tome d'Animal, La prophétie de la Reine des Neiges. Et on retrouve effectivement des figures de la mythologie viking, scandinave, nordique, dans les contes d'Andersen, tout simplement parce que c'était la culture dans laquelle il baignait.
Et il y a l'idée aussi, pour Boucle d'Or, m'a-t-il semblé, d'écrire ce qui n'est pas écrit. Par exemple, qui est cette fille ? D'où elle vient ? On ne la connaît pas. Un jour, elle rentre dans une maison, mais qui elle est ? C'est grisant, ça, d'écrire ce qui n'a pas été écrit par les autres ?
C'est extrêmement grisant. Moi, j'adore tous les jeux littéraires, le fait de s'appuyer sur des œuvres du passé. Les livres, pour moi, sont des choses vivantes, hein, des histoires qui revivent à chaque fois qu'un nouveau lecteur ouvre le livre et se l'approprie. Donc, j'aime bien établir ce dialogue à travers le temps, entre les histoires, entre les auteurs. En particulier, le conte de Boucle d'Or est venu d'un rêve, très simple. C'est l'histoire que je raconte à chaque fois qu'on parle de ce livre, mais c'est comme ça vraiment qu'il est né. J'étais dans une forêt profonde, et il y avait cette chaumière dont je m'approchais sans jamais réussir à l'atteindre. Je me suis réveillé en sursaut, et j'ai repensé à ce moment-là au conte de Boucle d'Or, que j'avais, pour ainsi dire, oublié. Je l'ai relu. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ce conte de Boucle d'Or est très atypique. Il est très différent de tous les autres contes parce qu'il n'a pas de fin fermée. Presque tous les contes se terminent par « ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants », c'est vraiment une fin fermée. Dans le conte de Boucle d'Or, c'est tout l'inverse. La jeune fille, lorsqu'elle est découverte par les trois ours, se réveille en sursaut, elle est terrorisée, elle saute par la fenêtre et ça s'arrête là. On ne sait pas ce qui se passe après. On ne sait pas qui elle était vraiment, on ne sait pas ce qui lui arrive. Et là, pour moi, c'est devenu une mission, presque une obsession. Il a fallu que je retrouve la trace de Boucle d'Or, que j'essaye d'inventer ou de retrouver qui était Boucle d'Or et ce qui lui arrivait après. Et également, qu'est-ce qu'elle a vraiment vu dans cette chaumière, au-delà de ce que nous dit le conte. Et c'est comme ça qu'est né ce livre, La malédiction de Boucle d'Or, qui pour moi a été mené comme une enquête. Je me suis renseigné, quand j'ai commencé à l'écrire, sur l'époque à laquelle on avait pour la première fois couché sur le papier le conte de Boucle d'Or. Et cet auteur dont je parlais tout à l'heure, Robert Suzet, a écrit donc pour la première fois le conte de Boucle d'Or dans les années 1830. Et je me suis dit, c'est à cette époque qu'il faut que je situe mon roman, donc dans l'Europe post-napoléonienne, qui a été cette Europe qui est en pleine reconstruction, qui a été morcelée, recomposée par les guerres de Napoléon, où la France se cherche entre la nostalgie de l'Ancien Régime et l'aspiration de la République. On est sous la monarchie de Juillet encore. Et on commence sur cette jeune femme qui s'appelle Blonde, qui a 17 ans, qui a été déposée dans un couvent à sa naissance, au cœur de la forêt vosgienne, un lieu très isolé. Elle est destinée à prendre le voile et à devenir religieuse quand elle aura 18 ans. Mais la veille de son 18e anniversaire, un vieil homme va rentrer par effraction dans sa cellule et lui remettre un dossier qui détient, dit-il, les clés de son passé. Et là, elle va avoir un choix à faire, soit garder la voie toute tracée de sa vie de religieuse, soit s'enfuir. S'enfuir à la recherche de son passé, s'enfuir à la recherche de ses origines et mener cette enquête que j'ai menée moi-même en tant qu'auteur sur les traces du conte de Boucle d'Or. Donc ça, c'est l'histoire d'Animal, La malédiction de Boucle d'Or.
Donc vous précisez que ce roman est né d'un rêve, donc vous dormez.
Je dors quand même un peu.
vous avez beaucoup dit que vous aviez des problèmes de sommeil. Et la nouvelle qui est publiée dans Je Bouquine, justement, il y a un jeune héros qui a des problèmes de sommeil. Ça vous a inspiré pour écrire ça, Jacques Spark, etc.
Complètement. Oui, quand j'étais plus jeune, enfant et adolescent, j'avais beaucoup de problèmes de sommeil. Je faisais du somnambulisme étant jeune, puis ensuite de l'insomnie assez tenace. J'ai fait tout un tas de thérapies pour essayer de régler ça, parce que c'était une obsession, je voulais absolument dormir, j'avais l'impression d'être anormal, d'être presque monstrueux, de dormir si peu, en fait de me réveiller très tôt le matin et de ne pas pouvoir me rendormir, hein, vers 3h du matin. Donc j'ai fait plusieurs nuits en laboratoire du sommeil, en clinique, on vous met des électroencéphalogrammes pour mesurer l'activité cérébrale, des sangles thoraciques abdominales pour mesurer la saturation d'oxygène dans le sang, la respiration, tout ça, on met tout ça en équation, et ensuite on vous fait tester différentes molécules, différents traitements pour essayer de vous faire dormir. Dans mon cas, ça n'a jamais marché vraiment. Et à la fin de l'adolescence, vers 18 ans, finalement, je me suis dit, je vais me servir de ce temps que j'ai en plus, de ces heures blanches de la nuit que j'ai en plus, pour lire et surtout pour écrire. Et à partir du moment où dans ma tête ce déclic s'est fait d'arrêter de vouloir absolument dormir et d'utiliser ce temps, tout a été réglé finalement. Et aujourd'hui encore, j'écris la nuit principalement, je me réveille vers 3h du matin, je me mets à ma table de travail, tout est calme, tout est silencieux, la seule chose qui existe à ce moment-là, c'est l'histoire que je suis en train d'inventer, et c'est un moment magique que je perdrai pour rien au monde. Donc je suis très content d'être insomniaque maintenant. Mais c'est vrai que ça a été l'objet d'un processus psychologique, d'accepter cela. Mon premier roman, Le cas de Jack Spark, est assez autobiographique à cet égard. Le héros, Jack Spark, a 15 ans. Il est insomniaque, comme je l'étais. Il a tout essayé pour dormir sans y arriver. Et en désespoir de cause, ses parents vont l'envoyer dans un camp, une clinique perdue dans les montagnes rocheuses, dans le Colorado, où on prétend soigner les adolescents qui, comme lui, sont anormaux. Et alors, il se trouve que ce camp est tenu par des créatures qu'on ne voit que la nuit, qui ne sont peut-être pas complètement humaines, et les thérapies utilisées sur Jack, soi-disant pour le soigner, vont avoir chez lui des effets inattendus, mais il faut lire le roman pour savoir la suite, bien sûr.
Et dans la nouvelle, alors il y aura une molécule, une sorte de médicament, hypnocidine, qui aurait été inventé pour tuer le sommeil. Alors ça, c'est plutôt un cauchemar, finalement, cette histoire.
Alors c'est une des questions de cette nouvelle. On se demande, parce que c'est présenté comme étant une molécule révolutionnaire. Le père du héros est un chercheur, un neurobiologiste, qui découvre le moyen de supprimer complètement le besoin de dormir chez les humains. Il suffit de prendre une pilule par jour, une pilule d'hypnocidine, hypnose le sommeil, cidine tuer, la pilule qui tue le sommeil. Mais en même temps, lorsqu'on tue le sommeil, on tue aussi le rêve. Bien sûr, les deux vont de pair. Donc est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Qu'est-ce qu'on tue vraiment quand on tue le rêve ? C'est ce que j'ai essayé de commencer à approcher dans cette courte nouvelle qui paraît dans Je bouquine ce mois-ci, effectivement.
Donc vous parliez du cas Jack Spark, qui est votre premier roman publié. C'est aussi le premier que vous avez écrit ? Vous avez fini ?
Oui, c'est le premier que j'ai fini. Depuis, j'ai écrit d'autres manuscrits qui n'ont pas tous été publiés. Il y en a certains que je garde dans mes tiroirs parce que j'ai envie de les retravailler. Ils ne sont pas encore complètement mûrs. Mais le cas de Jack Spark, c'était effectivement un premier manuscrit que j'ai soumis tel quel. Oui.
Et alors, vous l'avez envoyé à plusieurs éditeurs. Comment vous vous êtes dit déjà que celui-là, ça valait le coup, peut-être qu'il allait donner un roman édité ?
Je me suis lancé, j'avais pas trop d'appréhension au sens où je me suis dit on verra, on va voir, je me lance, je l'envoie à plusieurs maisons où ça me semble bien collé avec la ligne éditoriale et puis on verra ce qui se passe. J'avais envie d'être lu de toute façon, peu importe le coût, les éventuelles vexations, mon but c'était d'être lu, donc j'y suis allé comme ça.
Et alors les retours, ça a été immédiat, vous avez attendu 1 an, 2 ans, ça s'est passé comment ?
Si je me souviens bien, j'ai eu les premiers retours au bout de 3-4 mois, ce qui est quand même assez rapide. Généralement, en France, le temps de retour pour un manuscrit est à 6 mois, parce que les piles de manuscrits dans les maisons d'édition sont quand même assez conséquentes, et plus la maison est grosse, plus ils reçoivent de manuscrits. Donc on estime qu'il faut 6 mois pour avoir une réponse, généralement. Donc au bout de 4 mois, j'avais deux maisons qui étaient intéressées, dont une qui me semblait avec qui j'avais plus envie de travailler. Il me semblait qu'ils avaient mieux compris le texte, ils demandaient aussi moins de retravail, donc... c'était Jean-Claude Gazevitch.
Et donc, il vous demande des corrections, il vous demande de changer des choses. Dans quelle mesure ça se fait, ce travail-là ?
Ça, c'est un travail qui est très important, le travail d'édition proprement dit, où l'éditeur va avoir le regard de lecteur sur le texte, mais aussi un regard de professionnel, et va vous aider à améliorer le manuscrit. Et très souvent, le travail d'édition, c'est un travail de coupe. C'est-à-dire qu'on va resserrer, on va enlever le superflu, on va dégraisser pour qu'il ne reste que la substantifique moelle du roman. Et ce qui va donner envie au lecteur de tourner les pages et tourner les pages sans avoir de période où ça ralentit. Pour avoir donc pratiqué plusieurs éditeurs au cours de plusieurs romans, c'est vraiment ça qu'apporte l'éditeur. C'est vraiment là qu'est sa compétence, à mon avis. C'est dans cet œil acéré, presque chirurgical, qui va couper tout ce qu'il y a en trop.
Mais ça fait pas de mal à la fierté de l'écrivain ?
Je pense que c'est peut-être au début... Mais au fur et à mesure qu'on pratique ce jeu éditorial et qu'on comprend que c'est vraiment au service du livre, que ça va améliorer le livre, on en est reconnaissant finalement. Et je pense que très vite, on comprend qu'on est partenaire avec l'éditeur. On va dans la même direction, on veut la même chose, le meilleur livre possible.
Et quand vous avez envoyé ce premier manuscrit qui a fonctionné, etc., vous aviez déjà un autre métier avant ? Vous faisiez quelque chose d'autre ?
Oui, j'étais pendant longtemps chercheur de tendances, tendanceur comme on dit, où je conseille différents groupes sur les tendances de demain, culturelles, en termes de produits, pour les aider à innover, finalement.
Et aujourd'hui, vous êtes plus qu'écrivain ?
Oui,
Vous d'autres métiers en parallèle.
Non, effectivement, depuis un an, je me consacre exclusivement à l'écriture. J'ai la chance de pouvoir en vivre, car les livres fonctionnent. Et j'ai tellement d'histoires que j'ai envie de raconter qu'il me faut du temps, le plus de temps possible. Et j'ai décidé maintenant de franchir le pas pour raconter toutes ces histoires.
Parce que comme vous parlez plusieurs langues, il y a pas mal d'écrivains qui sont aussi traducteurs, par exemple. Ça peut arriver. Ça vous a jamais tenté?
Alors, il se trouve que j'ai passé en début d'année, c'était mon objectif scolaire, on va dire, de début d'année, un diplôme de traduction, Diploma of Translation de Institute of Linguists. Et j'ai appris il y a 2 semaines que j'avais été reçu avec mention. Donc, donc je suis maintenant traducteur sur le papier, en tout cas. Et j'aimerais beaucoup faire de la traduction, effectivement, littéraire. C'est mon prochain objectif.
Alors, de quelle langue à quelle langue?
Alors, ça sera de l'anglais vers le français. Hein. On recommande toujours de traduire vers sa langue maternelle pour être le plus efficace possible et conserver, s'exprimer dans le meilleur style possible. Donc, ça sera des auteurs anglophones vers le français.
Et qu'est-ce qui vous tente dans ce métier de traducteur? Qu'est-ce qui vous intéresse?
Bien, le fait de m'immerger dans d'autres univers d'auteurs complètement, de me mettre moi-même entre parenthèses et d'essayer d'adopter leur voix, de coller le plus près possible à leur style. Moi, j'ai l'impression que c'est un autre moyen de rencontrer les gens, de rencontrer un autre imaginaire d'auteur, et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire.
Et ça se passe comment? Il y a une maison d'édition qui va vous dire, est-ce que vous pouvez traduire ça? Ou vous avez des auteurs que vous aimez particulièrement anglophones et qui ne sont pas connus, par exemple, et vous allez dire, ben, moi, je voudrais bien traduire ça, quelqu'un en veut? Ça se passe comment, la traduction?
Ça peut fonctionner dans les deux sens. Je pense de manière plus classique, c'est généralement l'éditeur qui va mandater un traducteur par rapport à un texte qu'il a déjà acheté. Ceci dit, dans le cadre d'une relation avec mes maisons d'édition Gallimard et Robert Laffont, on a une bonne relation de travail sur mes livres en français, je pourrais effectivement leur conseiller des livres anglais qui m'ont plu pour qu'ils les achètent d'abord, hein, parce qu'avant de traduire, il faut qu'ils achètent les droits du livre et ensuite qu'on travaille ensemble sur la traduction. Ça serait tout à fait possible, oui.
Et vos propres livres, est-ce qu'ils sont traduits à l'étranger ?
Oui. Alors, le cas de Jack Spark est traduit en grec et en turc. Animal est traduit en portugais pour le Brésil. Phobos paraît ce mois-ci en Pologne. En août, aux Pays-Bas. Et l'année prochaine, grande nouvelle, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Donc ça, je suis très content parce que c'est assez rare de pouvoir être traduit en anglais lorsqu'on écrit en français, et je suis ravi de cette nouvelle qui va permettre de faire connaître cette histoire à plein de nouveaux lecteurs.
Et comment on en arrive à être traduit en polonais ?
Il se trouve que les Polonais sont de grands lecteurs et ils sont très francophiles, donc ils sont avides de littérature française, et la littérature française jeunesse notamment est beaucoup traduite en Pologne. Et les maisons d'édition, enfin, la maison d'édition polonaise avec laquelle je travaille, Otwarte, leur collection Young Adult s'appelle Moon Drive. Ce sont des gens qui sont extrêmement créatifs. Donc j'ai travaillé avec eux sur la stratégie de lancement du livre, et ils ont eu cette idée superbe de faire gagner des vols en apesanteur aux lecteurs pour le lancement du livre. C'est un roman de science-fiction qui se passe dans l'espace. Donc ils ont une soufflerie, en fait, en Pologne, à Varsovie, qui souffle tellement fort que ça vous maintient en vol. Et il y a même un championnat du monde de chorégraphie aérienne. Donc il y aura 12 lecteurs, comme les 12 prétendants du programme Genesis, qui seront sélectionnés pour voler dans ce tube de simulation aérienne et rencontrer la championne du monde de chorégraphie aérienne qui leur fera un cours de chorégraphie aérienne. Voilà, je trouve que c'est quand même assez fantastique. Et tout ça sera bien sûr filmé, et j'ai vraiment hâte de voir les images.
Et vous y allez alors, en fait, en Pologne pour ce lancement, ces choses-là ? Dans les autres pays ?
Alors, je n'irai pas à Varsovie pour le lancement, mais on est en train de travailler pour que j'aille à Cracovie en novembre, lorsque paraîtra le tome 2 de Phobos en polonais. Et ce sera mon premier voyage en Pologne, et j'ai vraiment hâte d'y être.
Et en apesanteur aussi, peut-être ?
Ils vont peut-être effectivement m'obliger à passer par là, mais ça serait un plaisir. Hein. J'aimerais beaucoup tenter cette expérience.
Et alors, Vous, jeunes lecteurs, quel genre de relation vous avez avec eux ? Par exemple, est-ce que vous recevez du courrier ?
Oui, j'en reçois beaucoup et aujourd'hui, Internet permet d'être en contact avec les auteurs de manière très fluide. Donc, je reçois principalement des messages sur Facebook, Twitter et Instagram également. Et puis, également sur mon site, j'ai une rubrique correspondance où je reçois des messages. Donc, tous les jours, effectivement, j'ai des messages. Généralement, on essaie de me soutirer des informations sur la suite, sur les livres qui ne sont pas encore parus. Mais là, je suis intraitable.
Et donc, vous dialoguez avec eux, vous leur répondez toujours, vous êtes à l'écoute ?
Oui, je m'efforce de répondre toujours. Alors, parfois, avec un peu de décalage, compte tenu de mes autres tâches, mais je mets ça sur le compte de la latence de transmission entre la Terre et Mars. Donc, ça passe.
Alors, justement, dans cette série Phobos, donc série plus axée sur la science-fiction, vous parlez un peu de l'exposition, justement, de l'exposition des gens, des jeunes, des moins jeunes. Comment on se présente, par exemple, sur les réseaux sociaux, la télévision, comment on montre son intimité à la télévision. C'est un sujet qui vous intéresse, ça ?
Oui, c'est un sujet qui m'intéresse. Parce que c'est un sujet d'une actualité brûlante, ce monde d'écran, ce monde de représentation, c'est notre monde, on est complètement immergé dedans, qu'on le veuille ou non. On se prend en photo en permanence pour se mettre sur Instagram, sur Facebook. Donc tous ces réseaux sociaux sont un formidable moyen de communiquer avec les autres, qu'on n'avait pas aux époques du passé, donc c'est quelque chose de nouveau, de bien. Mais en même temps, il y a un aspect négatif. Ça peut devenir assez vite un esclavage, on ne sait pas comment en sortir. On a l'impression de devoir toujours être en représentation de soi-même. Et c'est une des questions qui est posée dans Phobos. Parce que mes personnages, mes 12 prétendants, eux, leur seul désir, c'est de tirer un trait sur leur passé sur Terre et de partir le plus loin possible vers un avenir lointain.
Ils ont été choisis, en fait, pour partir...
Ils se sont déjà désignés, hein, ils ont candidaté pour ce programme Genesis qui envisage de créer la première colonie humaine sur Mars. C'est un voyage en aller simple, sans espoir de retour. Et tous, pour une raison particulière, ils ont quelque chose qu'ils veulent quitter à tout jamais sur Terre. Simplement, ils vont se rendre compte au cours de ce voyage de 5 mois à bord du vaisseau Cupido, puis une fois dans la base martienne de New Eden, qu'ils sont toujours entourés d'écrans. Ils sont filmés en permanence et ils ne peuvent pas sortir de ce système de la représentation, de ce système du spectacle qui existait sur Terre mais qui existe aussi sur Mars. Donc ça, c'est une des questions du livre. C'est comment est-ce qu'on peut recréer un espace de liberté dans ce monde filmé 24 heures sur 24, qui est notre monde une fois encore.
Oui, parce qu'il y a un désir quand même de se montrer d'une certaine façon, qui n'est pas forcément d'ailleurs ce qu'on est, de montrer une image de soi-même, et après cette idée qu'on va perdre le contrôle de ça.
Oui, c'est toute l'ambivalence à la fois du thème et des personnages. C'est qu'ils savent qu'ils font partie d'un jeu de télé-réalité, hein, ils ont signé pour ça, c'est dans leur contrat, donc ils vont jouer le jeu d'une certaine manière, ils vont essayer de se mettre en scène de la manière la plus séduisante, la plus lisse possible par rapport aux spectateurs, mais à un moment donné, leur vraie personnalité, leurs vrais espoirs, désirs, craintes, défauts vont ressortir, vont craquer derrière le vernis de la surface, et c'est là que la tension naît, et qu'il y a un divorce entre l'image qu'on voudrait renvoyer et ce qu'on est vraiment.
Mais vous aussi, en tant qu'auteur, vous vous montrez d'une certaine façon quand vous répondez comme ça, et puis aussi quand vous êtes sur Facebook, sur votre page, votre profil, vous aussi vous utilisez ça ?
Complètement, parce que je suis, moi, comme mes personnages, un enfant de cette époque. Je vis dans ce monde d'écran, dans ce monde d'images, donc j'en joue aussi, ça fait partie du jeu. Mais il faut savoir à quel moment ça s'arrête. Il faut essayer de ne pas devenir dupe de ce jeu, de ne pas le prendre complètement au premier degré. Je pense que c'est un peu le challenge, mais qui s'ouvre à chacun de nous, parce qu'on est tous dans cette société.
Donc ça, c'est une partie très sociale de votre roman, et puis il y a une partie plus science-fiction avec ce voyage sans retour sur Mars. Alors, science-fiction, ça vous va comme étiquette pour ce roman ?
Oui, la science-fiction, c'est un genre très large, donc on peut tout à fait le mettre en science-fiction. Ceci dit, il y a beaucoup de libraires ou de blogueurs, de journalistes qui l'ont classé en dystopie. Dystopie étant ce genre à la mode actuellement, de société généralement totalitaire dans un futur plus ou moins lointain, avec un groupe de jeunes, hein, en young adult, qui essaient de casser les codes de ce système très coercitif pour s'en évader. On a Hunger Games, on a Divergente, on a Le Labyrinthe. Mais pour moi, Phobos, ça n'est pas une dystopie. Parce que ça ne se passe pas dans un futur lointain, ça se passe demain. ça ne se passe pas dans un autre monde, ça se passe dans notre monde. Il ne s'agit pas d'un pouvoir politique totalitaire, il s'agit tout simplement du pouvoir diffus des médias qui nous entourent. Donc pour moi, Phobos, c'est plus une anticipation, au sens où on parle de notre monde, de ce qui pourrait se passer demain, de ce qui pourrait se passer cet après-midi. Et toutes les technologies dont je parle dans Phobos, pour conquérir la planète Mars, ce sont des technologies que nous maîtrisons déjà aujourd'hui. Donc une fois encore, c'est très réel, c'est notre monde dont il s'agit dans Phobos.
Parce que quand on parle de science-fiction, des fois le mot peut faire un peu peur, surtout à cause de science, quoi. Alors est-ce qu'il faut connaître des choses en science? Par exemple, là vous parlez beaucoup de Mars, par exemple, je ne sais pas, la terraformation ou la distance de la Terre à Mars ou la vitesse de la lumière, je ne sais quoi. Est-ce qu'il faut avoir un peu de connaissance en science pour lire de la science-fiction?
Alors une fois encore, ça dépend, c'est tellement vaste la science-fiction, hein. C'est comme la fantasy, il y a plein de sous-genres, il y a la fameuse hard science qui est très très scientifique, et puis à l'opposé, il va y avoir une science-fiction poétique comme celle de Bradbury, que j'aime beaucoup par ailleurs, et qui ne fait pas du tout appel à des connaissances scientifiques. Dans le cadre de Phobos, une fois encore, qui est ce roman d'anticipation très réaliste, pour moi c'était important qu'on ait cet aspect réaliste sur le côté technologique. Donc j'ai passé 6 mois de recherche sur... je me suis vraiment documenté sur la question, sur les technologies de conquête spatiale qu'on maîtrise aujourd'hui, sur le système solaire, sur tout un tas de choses. Et en même temps, je voulais que ce soit très réel dans le roman, mais que ça ne bloque pas la lecture. Moi, ce que j'aime pas dans certains livres de science-fiction, c'est quand ça devient tellement complexe que pour essayer de comprendre ce dont parle l'auteur, on perd les personnages, on perd le fil de l'intrigue. Et c'est là que j'ai eu l'idée de ces schémas qui émaillent le roman pour permettre au lecteur de se représenter plus facilement et de manière plus fluide les aspects techniques, les aspects notamment du vaisseau spatial et autres. Alors, ça a été d'ailleurs l'objet d'un débat avec mon éditeur. Quand je lui ai dit au début que je voulais des illustrations, il m'a dit « Non, illustration, ça fait jeunesse, ça fera trop jeunesse, ça ne va pas aller. » Je lui ai dit « Non, ce que je veux, ce ne sont pas des illustrations pour avoir des illustrations, ce sont des schémas techniques, comme on pourrait trouver dans un livre de la NASA, pour rendre l'expérience de lecture encore plus réelle. » Et finalement, bon, il a accroché et maintenant il est très content qu'on ait fait ça.
Oui, ils sont tout à fait bienvenus, ces schémas. Alors, l'aspect réaliste aussi de ce roman tourne beaucoup autour de l'histoire d'amour et donc des personnages. Alors, cette fameuse histoire d'amour, est-ce qu'elle est indispensable aujourd'hui quand on écrit un roman, on va dire young adult, destiné aux adolescents? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une intrigue amoureuse? Et là, plusieurs intrigues amoureuses, pour le coup.
Oui, alors déjà, bon, je pense que les intrigues amoureuses, c'est pas que pour les ados, c'est à tous les âges, c'est intéressant. Mais en l'occurrence, ça fait vraiment partie de l'expérience de vie qu'on a quand on est adolescent, quand on est jeune adulte. C'est quelque chose de très important. Le contact à l'autre, la séduction de l'autre. Donc, ça me semble un ingrédient naturel de la littérature young adult. Et puis, dans le cadre de Phobos, ça vient aussi rejoindre ce thème de l'image. Comment est-ce qu'on peut établir une relation authentique avec l'autre? Comment est-ce qu'on peut séduire l'autre dans ce monde d'écran, ce monde où on passe toujours par des interfaces? Donc il y a ce paradoxe aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'applications de dating, hein, de rencontres à disposition, et en même temps les gens ont de plus en plus de mal à se rencontrer vraiment. Donc on a tous ces outils qui nous sont offerts pour rencontrer l'autre, et on a l'impression d'être de plus en plus isolé. Et c'est finalement ce qui est exposé à travers Phobos, hein. Pour ceux qui l'ont lu, mes personnages sont dans deux parties bien cloisonnées du vaisseau spatial, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Et 6 minutes par jour, un garçon et une fille vont se rencontrer dans la bulle de verre qui est au centre du vaisseau et qui est partagée par une cloison de verre blindé absolument infranchissable. Et finalement, cette cloison de verre blindé qui sépare le prétendant et la prétendante pendant les speed dating, c'est un écran de plus. C'est également un écran qui les empêche de se toucher et de se rencontrer vraiment.
Alors, 12 personnages pour ces rendez-vous, plus ceux qui sont sur Terre, ça fait beaucoup de personnages pour un même roman. Est-ce qu'il y en a que vous préférez à d'autres? Est-ce qu'il y en a que vous n'aimez pas? Quelle est votre relation avec vos personnages?
Alors, ça, c'est une question qu'on me pose souvent et j'ai toujours la même réponse. J'ai pas de préférence pour mes personnages. J'essaye d'être le plus neutre possible par rapport à eux, de les laisser évoluer, de les laisser faire leurs propres choix, et souvent ils me surprennent. En fait, je sais que le roman est bon quand mes personnages me surprennent moi-même, et j'essaye aussi de mettre en lumière les aspects les plus positifs des personnages qui a priori paraissent négatifs, et inversement, de ne pas avoir de personnages ambivalents. Mais il n'y en a pas que je préfère par rapport à d'autres, non.
Vous dites vous les laissez évoluer, mais là par exemple vous saviez qui allait finir avec qui
allait faire... Absolument pas. Donc ça, j'ai vraiment joué le jeu. J'étais vraiment spectateur de la chaîne Genesis pendant tout le roman. Je n'avais aucune idée des couples qui allaient se former au final. Et c'est vraiment dans les dernières pages, avant d'écrire ça, que les couples se sont constitués.
Et alors, vos livres, donc le succès aidant, sont beaucoup chroniqués dans les revues, sur les blogs, etc. Les jeunes lecteurs, ou les moins jeunes d'ailleurs, donnent leur avis sur les personnages et donnent par exemple qui est-ce qu'ils aimeraient bien voir en couple, par exemple, des choses comme ça. Alors ça, est-ce que ça vous influence, vous ?
Non, je dois dire, ça m'intéresse beaucoup de lire effectivement les chroniques et les désirs des lecteurs par rapport au couple, mais sur cet aspect romance, ça m'a pas influencé. En revanche, parfois lorsque je discute avec les lecteurs, je me rends compte que tel ou tel personnage secondaire qui était peut-être pas forcément sur le devant de la scène pour moi, a été très important pour certains lecteurs, et ça va me donner envie de développer plus ce personnage. Je pense notamment au personnage d'Harmony, qui est la fille de Serena McBee, qui avait vraiment un rôle secondaire dans le premier tome. C'est un personnage qui a beaucoup intrigué les lecteurs et les lectrices, et j'ai eu beaucoup de questions sur ce personnage, que j'avais déjà le projet de développer, mais je l'ai finalement développé bien davantage que je ne l'avais prévu dans le tome 2, et surtout dans le tome 3, qui n'est pas encore paru.
Et les personnages de méchants, c'est excitant, ça ?
Ah oui, c'est même jouissif. Un personnage comme Serena McBee, qui est un personnage qui ne recule devant rien, qui est vraiment au-delà de la morale, qui fera tout pour arriver à ses fins, et à la fois, à mon avis, très symptomatique de notre époque, parce que je pense qu'il y a des gens comme ça aujourd'hui, et en même temps, c'est un personnage archétypal. C'est-à-dire qu'elle incarne complètement son désir de réussir, et il y a un côté jouissif à écrire ce personnage-là. À la fois, on ne sait jamais jusqu'où elle va aller, et on sera toujours surpris sur son prochain coup bas. Et en même temps, elle a toute une gestuelle, ça m'intéresse beaucoup de l'écrire, de la décrire, parce qu'elle se met elle-même en scène énormément, à travers son apparence, à travers son double jeu, sa double face. Donc c'est un personnage machiavélique très intéressant à écrire.
Et ça doit être difficile aussi, parce que vous dites justement, un personnage archétypal, il ne faut pas tomber justement trop dans le cliché peut-être, non ?
Alors il me semble que les clichés en littérature ont mauvaise presse, mais ils ont quand même beaucoup d'avantages. Et qu'on ne peut pas, à mon avis, faire de bonne littérature, notamment littérature de divertissement, d'évasion, d'aventure, sans utiliser de clichés. Si on est dans la phobie du cliché, qu'on veut absolument les éviter, on va tomber, à mon avis, dans une littérature expérimentale, presque autiste, qui va parler à l'auteur et à lui seul. L'intérêt des clichés, c'est que c'est un peu comme les contes, finalement. Ce sont des références qu'on partage tous, sur lesquelles on peut s'appuyer. Et les quelques clichés qu'on va mettre dans un roman vont permettre, par contraste, de faire ressortir encore plus les éléments d'originalité. Si on veut que tout soit original dans un roman, au final, à mon avis, ça va diluer le roman. Et il n'y a rien sur quoi on aura prise. Si on réussit à avoir le juste cocktail entre les clichés, les archétypes, qui sont des forces vraiment narratives, et des éléments purement originaux, là, on peut avoir un roman qui tient la route, une histoire qui nous tient en haleine et qu'on va vouloir lire jusqu'au bout. En tout cas, moi, c'est mon approche du cliché et de l'archétype.
Et donc, vous parlez, l'évasion, le suspense, c'est ça qui est important pour vous ? C'est le moteur de vos romans ?
Oui, c'est mon obsession, hein, même quand j'écris, quelle que soit la série, que ce soit Animal, Jack Spark, je suis à ma table d'écriture la nuit, je pense toujours au lecteur et au désir de continuer à lire l'histoire, au désir de tourner la page. Quand on écrit, on joue avec le désir du lecteur. L'objectif, c'est d'entretenir ce désir, c'est comme une flamme qui naît au début du livre. Hein. On a une envie d'histoire et on a été attiré par le titre, par le résumé, par la couverture. Il y a cette flamme qui est née. Et il faut la maintenir tout au long de la lecture et, si possible, la faire grandir. Et surtout, éviter qu'elle s'éteigne ou qu'elle faiblisse.
Et vous écrivez pour un public en particulier ?
J'écris pour des personnages avant d'écrire pour un public. Donc, effectivement, je mets en scène des personnages adolescents ou jeunes adultes dans mes livres. J'essaie de rentrer dans leurs aspirations, leurs craintes, leurs espoirs. Et ça va parler, bien sûr, aux jeunes lecteurs en priorité, peut-être, hein, mais également à des adultes qui se souviennent d'avoir été adolescents. Donc, voilà.
Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames, qui êtes... Allez-y, je vais la répéter si on n'entend pas.
Tout à fait, Mélanie Delon.
Alors pour les couvertures de Phobos.
Pour Phobos, on a eu une discussion avec mon éditeur chez Robert Laffont sur le concept, qu'est-ce qu'on voulait voir représenté en couverture. Donc, et on est tombé d'accord finalement sur cette idée de corps en position fœtale, parce que ça rejoint le logo du programme Genesis, c'est cohérent par rapport à cette volonté de créer une nouvelle colonie humaine sur Mars, et puis en même temps, c'est la pesanteur, c'est l'espace. Donc sur l'idée, on est tombé d'accord, et ensuite il a fallu trouver le photographe, l'artiste pour réaliser cela. Et mon éditeur, Glenn Tavnek, m'a proposé un portfolio de différents artistes avec qui il avait déjà travaillé pour la collection Air, et notamment ce photographe, Larry Rostand, qui est un Britannique qui vit à Londres, et qui a une force d'évocation dans ses photos que je trouve vraiment très, très puissante. Et c'est notamment lui qui a fait les couvertures de Game of Thrones en Grande-Bretagne. Donc, bon, c'est un photographe reconnu. Donc on a travaillé avec lui, on a fait le casting avec lui, d'ailleurs, du personnage représenté en couverture. C'est une mannequin anglaise qui s'appelle Tara Lily, qui incarne une Française, donc Léonore sur la couverture. Donc c'était vraiment un travail main dans la main avec l'éditeur sur les couvertures de Phobos. C'est vrai que d'habitude, contractuellement en France, la couverture, c'est vraiment la prérogative de l'éditeur. Et parfois, il n'informe même pas l'auteur de l'image qui va être choisie. Mais moi, j'ai toujours refusé ça. Ça me semble tellement important, la couverture. C'est vraiment l'ambassadeur du livre. Il me semble que l'auteur doit être consulté. Et j'ai eu la chance, avec Gallimard et avec Robert Laffont, d'avoir des éditeurs qui étaient prêts à jouer le jeu. Merci.
Et donc, en avant-première pour ces Imaginales, sort un nouveau volume de Phobos qui n'est pas vraiment la suite. Racontez-nous ça.
Oui, c'est un préquel. Donc, c'est une histoire qui se passe avant la trilogie principale. C'est l'histoire des 6 prétendants, donc les 6 candidats garçons de cette mission de colonisation de Mars. Quel est leur passé ? Quels sont les ressorts qui les ont poussés à signer ce fameux contrat Genesis de voyage en aller simple sur la planète Mars sans espoir de retour ? Et bien, c'est l'histoire que j'ai voulu raconter à travers ces 6 portraits, 6 longues nouvelles qui, ensemble, constituent un roman. C'est un roman choral, chacune des nouvelles se répond. Et j'ai également essayé d'émailler ce roman de tout un tas de schémas, de jeux qui mettent le lecteur en position lui-même de candidat au programme Genesis, pour avoir l'impression d'être nous-mêmes en face de ce choix, partir ou pas pour la planète Mars en aller simple. C'est Phobos Origine.
Et ce préquel, vous y pensiez déjà avant ou il est né du succès ou de la pression, que sais-je, des 2 premiers volumes ?
Alors Phobos, c'est un univers très vaste sur lequel j'ai travaillé donc pendant 6 mois avant d'écrire la première ligne du premier roman. Donc j'ai tout un tas de notes, de possibilités d'histoire, de fiches de personnages dans mon ordinateur. Et j'avais dès le départ l'envie d'avoir une saga avec Phobos. Et j'avais en tête effectivement ces tomes hors série, non seulement celui-ci mais d'autres également. Et avec l'éditeur, on s'est dit, lui, il était très partant, il m'a dit, on va voir si ça marche. Nous, on y croit à fond à ce livre. Et si ça fonctionne comme on l'espère, on y va. Et on va étendre l'univers de Phobos le plus loin possible.
Donc ça peut encore se développer.
Ça peut encore, oui.
C'est une bonne nouvelle. Et donc cette fois, les garçons, alors pour finir, parce que j'avais l'impression que vous aviez une préférence pour les personnages féminins.
Non, une fois encore, je n'ai pas de préférence pour mes personnages. C'est vrai que le premier tome se situe du point de vue des filles, et notamment mon héroïne, Léonore, est une fille, donc on voit le jeu à travers ses yeux. Forcément, on a l'impression d'être plus de leur côté au fil de la lecture. C'est aussi pour cette raison que cette hors-série me semblait important, pour avoir vraiment le point de vue des garçons, avoir leur vécu et leur approche de ce jeu. Donc on rétablit l'équilibre dans la balance avec ce livre.
Je pensais aussi aux personnages d'Animal, qui sont aussi des jeunes filles très sensibles, très beaux personnages féminins.
Oui, et en fait, chaque personnage apporte un potentiel. Pour Animal, le choix du sexe d'un personnage, et notamment du personnage principal, en fait, s'impose à moi sans que je le prémédite ou le réfléchisse trop. Quand j'ai voulu écrire Animal, c'était forcément une fille, une jeune femme qui serait l'héroïne. C'était une évidence pour moi. Pourquoi ? Peut-être cette connexion à la part animale qui est très importante dans Phobos. Également dans le deuxième tome, il est question de la grossesse. Tout s'articule autour de la grossesse de Blonde, mon héroïne, et elle retrouve à travers cette expérience de la grossesse des sensations très animales que moi j'ai pas vécu en étant un homme, mais j'ai essayé d'imaginer ça à travers les yeux, à travers le ressenti de mon héroïne. Et j'étais en dédicace dans une librairie à Genève l'année dernière, et la tenancière de la librairie m'a dit qu'elle avait été très sensible à ces pages sur la grossesse, surtout venant d'un homme, et ça m'a vraiment flatté d'avoir ce retour-là.
Une dernière question ? Oui ? Non ? Alors je vais finir en vous demandant, puisqu'on est aux imaginales, est-ce que vous lisez, vous nous avez parlé de vos lectures d'enfants, aujourd'hui encore, est-ce que vous lisez, vous, de la fantaisie ? Est-ce que vous lisez de la science-fiction ? Est-ce que ça vous aide dans votre imaginaire ?
Oui, je lis toujours beaucoup, aussi bien de la science-fiction, de la fantaisie, de la littérature générale, du polar. Je continue de lire. Là, j'ai lu récemment, j'ai terminé tous les Épouvanteurs en littérature jeunesse, que j'ai adoré. Je trouve que ça renoue justement avec un imaginaire de conte, quelque chose de âpre, de la figure de la sorcière qui est très très bien gérée. Ça, c'est une série que je recommande chaudement. Voilà, c'est ma dernière lecture.
Et ça vous encombre pas l'imaginaire ?
Non, au contraire, ça vient nourrir. C'est comme toutes les expériences dans la vie. Pour moi, j'ai pas vraiment de frontière entre les expériences de lecture et les expériences de vie. Tout ça, c'est dans un continuum, et ça vient nourrir la machine.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Victor Dixen, pour cette heure passée en votre compagnie. Merci à vous d'avoir été attentif et bon festival.
Merci.